à 28. Je vais donner tout de suite la parole à Muriel Mosconi, qui est notre collègue de Marseille et de Bandol, psychanalyste et psychiatre, qui va parler sous le titre de la SAMDA et de ses risques. À toi, Muriel.
Merci, Radou. Alors, lorsque Lacan parle pour la première fois dans un discours adressé au public de la SAMCDA, de la Société d'assistance mutuelle contre le discours de l'analyste, en cette rentrée 1973, durant l'enregistrement de télévision, il ébauche un lapsus. Société d'assistance contre le DES, le discours de l'analyste. Contre le désir de l'analyste, donc. Le désir et le discours de l'analyste sont bien sûr solidaires et c'est le fil du désir de l'analyste que je vais suivre. En cette année 73-74 du séminaire Les noms du père, les noms du père, Lacan enchaîne alors sur une allusion à son séminaire Les noms du père du 20 novembre 1963. Il en attribue l'interruption à cette fameuse SAMCDA, l'IPA, dont il venait d'être exclu la veille du 20 novembre, donc 63. Il considère que l'analyse des noms du père, qu'il introduit par une étude de la ligature d'Isaac, dite le sacrifice d'Abraham, est la cause de son exclusion. Une erreur stratégique de sa part par rapport au règlement de l'IPA, démissionner du groupe français, ce qu'il a fait, impliquait ipso facto de démissionner de l'IPA. Donc, cette erreur stratégique a aussi participé à ce pataquès, comme il le précise dans son discours de Tokyo du 21 avril 1971. Notons d'ailleurs que la SAMCDA va au-delà de l'IPA. Son spectre hante le lien social de tous les analystes entre eux. Dans l'unique séance du séminaire « Les noms du père », alors je vais vous partager l'écran, voilà. Donc, dans l'unique séance du séminaire « Les noms du père », Lacan, en suivant la veine du Kierkegaard du concept de l'angoisse et de crainte et tremblement, et la veine de Rashi et d'autres talmudistes, Lacan donne le mathème de l'aleph de l'angoisse, c'est ce que vous avez là, comme angoisse comme sensation du désir de l'autre qui est là. Cet aleph qui est là est représenté par l'objet ptita dans le fantasme où le sujet soutient son désir, petit d, ce qui donne le circuit par lequel le désir de l'autre se fait désir du sujet en passant par cet aleph et le petit a. Lacan, dans ce séminaire, articule le nom du père et l'objet ptita par le biais du chauffard, la corne du bélier sacrifié qui module le cri du père charnel, du père de la tribu, sacrifié au nom du père, au grand autre symbolique, dont le désir oriente la scène du mont Moria. Cet objet, le chauffard, qu'on peut retrouver là, et le reste de l'opération de la ligature d'Isaac, qui, elle, n'est pas sans rapport avec la métaphore du nom du père. J'arrête un peu le partage d'écran, j'y reviendrai. Quant au désir de l'analyste, Lacan l'élabore depuis le désir et son interprétation. Il le reprend dans l'éthique de la psychanalyse et le développe dans le transfert sur la trace du désir de savoir de Socrate et de son atopie, et sur la trace de l'exploration du champ du désir par les purs, dit-il, une référence au cathare, je suppose, et par les saints, qui explorent aussi ce champ du désir qui donnerait une idée du désir de l'analyste. Sa formulation la plus connue est celle qui est en conclusion du séminaire 11, qui vient à la place du séminaire « Les noms du père interrompu ». Alors, je cite cette citation que pour la plupart vous connaissez bien, « Le désir de l'analyste n'est pas un désir pur. C'est un désir d'obtenir la différence absolue, celle qui vient quand, confronté au signifiant primordial, le sujet vient pour la première fois en position de s'y assujettir. assujettir. Là seulement peut surgir la signification d'un amour sans limite. Ça, on est du côté du désir de l'analyste, parce qu'il est hors des limites de la loi où seulement il peut vivre. Et Lacan précisera dans le séminaire suivant, problème crucial pour la psychanalyse, que ce signifiant primordial où le sujet est censé s'assujettir est de l'ordre de la nomination. Nous retrouvons le séminaire Les noms du père, que Lacan introduit justement par tout un paragraphe sur la nomination. Lacan oppose à la fin du séminaire 11 ce désir de l'analyste, donc, au désir pur de Kant avec Sade, qui implique le sacrifice de l'objet pathologique qu'il corrèle à la Shoah. Plutôt que de sacrifier l'objet, il faut le mettre en position d'opérer, comme dans sa lecture de la ligature d'Isaac avec le chauffard, ce qu'écrira plus tard la formule du discours de l'analyste. Lacan oppose aussi ce désir à la mort intellectualiste d'Ei, l'amour intellectuel de Dieu, de Spinoza, où le champ universel du signifiant noie la référence à l'objet. C'est ce désir de l'analyse qui permet à la cure le franchissement des plans des identifications. Il permet d'obtenir la différence absolue, là où les tenants de l'égo-psychologie de l'IPA, de la SAMKDA, donc, prônent l'identification au moi fort de l'analyste. Ce moi fort permet d'obtenir de bons employés, remarque-t-il. Il faut avoir un moi résistant pour être un bon employé. De bons employés du côté des patients, et du côté des analystes. Voilà. Durant le séminaire suivant, problèmes cruciaux pour la psychanalyse de 64-65, le 19 mai 65, Lacan, pensant contre l'alliance avec la partie saine du moi prônée par l'IPA, autrement dit, trompons-nous ensemble, dit-il, et pensant avec Pascal et sa théorie des jeux et avec le jeu de l'amour, Lacan donc écrit, j'essaie de trouver comment agrandir ça, mais bon. Lacan décrit la cure comme un jeu à trois entre le sujet, le savoir et le sexe, dont voici les règles qui se déduisent du schéma ci-dessous. Alors déjà, le schéma, c'est celui-là, et les règles, on voit que c'est un jeu de l'amour où le sujet s'indétermine dans le savoir inconscient. On a déjà la trace de l'inconscient comme savoir sans sujet, qui échoue face au sexe, qui donne sa certitude au sujet de prendre son gîte dans le pur défaut du sexe. On a donc une relation circulaire où le sujet, disons, est inférieur au savoir, qui est inférieur au sexe, qui est inférieur au sujet. Hein? Voilà, la relation de l'amour analytique. Alors, pour que l'analyse aboutisse à autre chose pour l'analysant, qui sait mais ne le sait pas. À autre chose donc, à une identification au sujet supposé savoir, c'est-à-dire au sujet de la tromperie, il faut que l'analyste, qui ne sait pas et le sait, animé par son désir spécifique, petit d, sur le schéma, joue de l'objet petit a, qui est là. En fait, on a les deux partenaires là, qui tous les deux, d'une manière ou d'une autre, jouent de l'objet petit a, l'analysant et l'analyste. L'objet petit a s'est substitué à la réalité de la différence sexuelle impossible, là, que le sujet ne peut que fuir dans une pudeur radicale. Ça, c'est, disons, dans la constitution même du sujet. Hein? Donc, le sujet, dès avant l'analyse, joue de l'objet petit a, bien évidemment. La réalité de la différence sexuelle impossible se situe là où Lacan écrivait l'aleph de l'angoisse et là où il placera le réel de l'impossible, écriture du rapport sexuel plus tard. Mais déjà, on en a bien évidemment la trace évidente, le préalable évident. Cette substitution du petit a, de l'objet déchet, à la réalité de la relation sexuelle donne sa loi au rapport de l'analyste à l'analysant. Tous les deux jouent de l'objectita. L'analyste a affaire à un partenaire sur la défensive, mais cette défensive n'est pas dirigée contre lui. Ce qui fait la force de cette défensive, c'est qu'elle est dirigée contre l'autre pôle, celui de la réalité sexuelle. Elle est imbattable, cette défensive, dans ce jeu, car comme il n'y a pas de solution, la ruse du meneur de jeu, si l'analyste peut mériter ce nom, ne peut être que de dégager une forme toujours plus pure de cette défensive liée au fantasme fondamental, ce qu'on retrouve un peu là-haut aussi. Au fantasme fondamental du sujet. Il s'agit donc pour l'analyste de se faire complice de cette pudeur radicale pour qu'elle baisse la garde, et c'est ce qu'est le désir de l'analyste dans l'opération. L'analyste opère dans ce triangle que Lacan appelle le triangle rouge entre le petit a, le savoir et le savoir, à l'opposé du sexe et le sujet, bien sûr, à l'opposé du sexe que défend le démon de la pudeur. C'est ce démon de la pudeur qui horrifie la territa, c'est le terme latin pour la dame que l'on voit, la dame de la Villa des Mystères que l'on voit en couverture de télévision. La territa, l'effrayer, l'horrifier, l'atterrer, par le démon de la pudeur qui justement se situe par là. Lorsque l'analyste n'est pas au point avec le désir de l'analyste, il s'évade dans le transfert, dans une névrose de transfert qui est le vrai nom du contre-transfert. Lacan illustre cela par l'emprisonnement, selon ses propres termes, où s'est trouvée durant 10 ans une jeune analyste britannique. Emprisonnement donc dans une position de jouissance dans la cure d'un psychotique, faute d'avoir repéré la structure du cas. Nous sommes toujours dans un problème crucial. Hein. Donc, on voit déjà un dommage pour l'analyste qui est cet emprisonnement dans cette position de jouissance et dans cette névrose de transfert qui là dure, de la part de l'analyste, qui là dure 10 ans. En 1967, dans la proposition d'octobre, le désir de l'analyste devient l'X de l'équation entre petit a et moins phi, entre l'objet du fantasme et la castration qui disent tous les deux l'impossible de la réalité sexuelle. Et ce désir de l'analyste devient aussi son énonciation dans le droit fil de l'éthique du bien-dire. En 73, en cette année de télévision, Lacan reprend deux éléments de sa trilogie du transfert, Socrate, les purs et les saints. Après avoir fait un sort au pur dans le séminaire 11 avec Kant avec Sade, il reprend la question du désir de savoir de Socrate dans sa note italienne pour faire du désir de l'analyste un désir inédit, le désir de savoir. Il reprend aussi la figure du saint dans télévision pour la rapprocher de l'analyste en ceci qu'il décharite, qu'il fait le déchet, qu'il joue de l'objectita, comme on vient de le voir. Le modèle de ce saint est Balthazar Gracian avec son art de la prudence dont Armando Côté va nous parler. Voilà, donc ce développement nous donne une idée partielle de ce contre quoi la Samkhya se ligue. J'en viens aux risques. Quels sont les risques dont parle Lacan quand il dit « ces analystes de la Samkhya ne veulent donc rien savoir du discours qui les conditionne ». Ça ne les en exclut pas pour autant, puisqu'ils fonctionnent comme analystes. Ce qui veut dire strictement qu'il y a des gens qui s'analysent avec eux. À ce discours, donc, ils satisfont, même si certains des effets de ce discours sont par eux méconnus. Dans l'ensemble, la prudence ne leur manque pas, même si ce n'est pas la vraie, ça peut être la bonne, ce qu'Armando Côté va commenter. Au reste, poursuit Lacan, c'est pour eux qu'il y a des risques, pour ces analystes. Alors, nous avons déjà vu qu'ils risquent de devenir de bons employés au moins forts, ravis de la routine qui fait leur confort et faisant tout de surcroît pour faire entrer la psychanalyse sous l'étiquette noire de la fausse science qu'est la psychologie générale. En 1956, Lacan décrivait avec le talent d'un Swift les ridicules institutionnels de l'IPA et la sèchement épistémique qu'ils impliquent. Et il reprend cette référence jusque dans son dernier écrit public du 11 mars 1981. Il parle des suffisances dans cet écrit. Armando Côté va aussi développer ce point de la, des béatitudes, des suffisances, des biens nécessaires et des petits souliers. Les analystes risquent aussi de se retrouver dans une névrose de transfert contre transférentiel, comme on l'a vu, qui éternise les analyses qu'ils mènent, comme Lacan le remarque donc dans Problèmes cruciaux. Pour ébaucher une réponse à la question des risques, je me référerai à un couple dont Lacan parle de temps en temps depuis l'éthique de la psychanalyse et qu'il cite dans Télévision. Il s'agit du Foule et du Knave de Geoffrey Chaucer, l'auteur des Contes de Canterbury. Couple que l'on retrouve aussi ensuite dans le théâtre élisabétain, le Foule et le Knave. Il s'agit donc du sot, du demeuré ou du fou de cour pour le Foule et de la canaille ou du fiefé copain pour, copain et coquin, voilà, pour le Knave. Un monsieur tout le monde avec plus de décision, dit Lacan pour le Knave. Un monsieur tout le monde avec plus de décision. Depuis l'éthique, Lacan répète que prendre une canaille en analyse la rend bête. Et c'est comme cela que, gentiment, il excuse ceux qui le quittent pour l'IPA ou pour un autre groupe. Il les a rendus bêtes. C'est ce qu'il dit le 1er juin 1972 lors du séminaire Le savoir du psychanalyste. Alors, je le cite. Le discours analytique est le seul qui soit tel que la canaillerie y aboutisse nécessairement à la bêtise. Si on savait tout de suite que quelqu'un qui vient vous demander une psychanalyse didactique est une canaille, on lui dirait « pas de psychanalyse pour vous, mon cher, vous en deviendriez bête comme chou ». Mais on ne le sait pas, c'est justement soigneusement dissimulé. On le sait quand même au bout d'un certain temps, dans la psychanalyse, la canaille étant toujours liée au désir de l'autre, du grand autre, d'où a surgi le sujet. Ce n'est pas toujours le désir de ses parents, ça peut être celui de ses grands-parents, mais si le désir dont il est né est le désir d'une canaille, c'est une canaille immanquablement. Je n'ai jamais vu d'exception et c'est même pour ça que j'ai toujours été si tendre pour les personnes que je savais qu'elles devaient me quitter. Au moins pour les cas où c'était moi qui les avais psychanalysées, parce que je savais bien qu'elles étaient devenues tout à fait bêtes. Bon, il poursuit. Je ne peux pas dire que je l'avais fait exprès, comme je vous l'ai dit, c'est nécessaire. C'est nécessaire quand une psychanalyse est poussée jusqu'au bout, ce qui est la moindre des choses pour la psychanalyse didactique. Si la psychanalyse n'est pas didactique, alors c'est une question de tact. Vous devez laisser au type passer de canaillerie pour qu'il se démerde désormais convenablement. C'est proprement thérapeutique, vous devez le laisser surnager. Mais pour la psychanalyse didactique, vous ne pouvez pas faire ça parce que Dieu sait ce que ça donnerait. Supposer un psychanalyste qui reste une canaille, ça hante la pensée de tout le monde. Soyez tranquille, la psychanalyse, contrairement à ce qu'on croit, est toujours vraiment didactique, même quand c'est quelqu'un de bête qui la pratique. Je dirais même d'autant plus. Alors ça peut être aussi interrogé. Bon, enfin, tout ce qu'on risque, c'est d'avoir des psychanalystes bêtes, mais c'est comme je viens de vous le dire, en fin de compte, sans inconvénient, parce que quand même, l'objectif à la place du semblant, c'est une position qui peut se tenir. Enfin, on peut ajouter, il ne faut pas être échaïde pour ça. Voilà, on peut être bête d'origine aussi, c'est très important à distinguer. Dans Télévision, un peu après le passage qui nous occupe, il redit qu'il faut refuser la psychanalyse aux canailles car ça les rend bêtes. Il ajoute que c'est une amélioration de canailles à bêtes, mais sans espoir. Dans L'envers de la psychanalyse, donne cette définition de la canaillerie. Vouloir être le grand autre de quelqu'un, là où se dessinent les formes où son désir sera capté. Vouloir être un hypnotiseur en quelque sorte, ce qui n'est pas sans rapport avec la recherche de l'identification au moins fort de l'analyste. Dans cette même veine, Lacan, en octobre 1967, au Vinatier et dans son séminaire sur l'acte, en automne 1967, se compare au Ponce Pilate de Claudel. Parce que Ponce Pilate a posé la question de la vérité justement là où il ne fallait pas, c'est-à-dire à la vérité elle-même, à Jésus en l'occurrence. Par la suite, Chaque fois qu'il passe devant une idole, le ventre de l'idole s'ouvre dans un grand bruit de machine à sous et l'on voit qu'elle n'est qu'une tirelire. Et Lacan d'ajouter, eh bien, c'est à peu près ce qui m'arrive. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que je fais aux idoles psychanalytiques. Et à Milan, le 12 mai 72, sur cette même référence de Claudel, je cite, « Les psychanalystes sont comme ça. Ils avouent tout et tout ce qu'ils racontent prouve qu'évidemment, ils sont de très bonnes personnes. C'est fou ce qu'ils aiment l'être humain, qu'ils veulent son bien, sa normalité. C'est inouï, enfin, n'est-ce pas? C'est inouï la folie de guérir. De guérir quoi? En quelque sorte, ils ouvrent leur ventre tirelire sur leur belle âme. » Le risque se situerait donc entre canaillerie et bêtise, entre éthique et épistémée. Il faut aussi noter que la canaillerie se distingue du solde cynique de la psychanalyse, dont Lacan parle dans le résumé du séminaire sur l'acte analytique en 69. Ce solde cynique, qu'il considère comme secondaire, mais apparemment nécessaire, enfin qui arrive dans toutes les analyses, est corrélé au réel insensé, notamment celui de l'impossible du rapport sexuel. La prise en compte de l'insensé du réel amène le sujet, sur certains points, à un todo modo illustré par Chiacha dans son roman éponyme. Je reviens au fou et au Kneipp. Pourquoi la canaillerie devient-elle bêtise en analyse? Se vouloir l'autre qui capte le désir, se vouloir l'idole qui hypnotise, résiste du côté de l'analysant à son entrée dans le discours analytique, résiste à ce que le désir de l'analyste et de l'analyse soit son désir, résiste à la mise en fonction du sujet supposé à savoir. Il rate l'éthique du bien-dire, qui est l'éthique de l'analyse, et qui garantit une moindre bêtise. L'impudence de la canaille est aussi à l'opposé de la pudeur radicale dont l'analyste, par son désir, se fait le complice. Du côté de l'analyste devenu bête dans sa propre analyse, s'il peut par sa prudence ne pas faire obstacle à sa mise en fonction de semblants d'objet A, par le sujet qui s'analyse avec lui, il ne peut qu'être aveugle à certains aspects fondamentaux de l'analyse. Ici aussi, la question de l'éthique du bien-dire se pose. J'évoquerai maintenant une figure hyperbolique, caricaturale de cette problématique. Il s'agit de Wilhelm Stekel, qui est l'un des précurseurs de la Société d'assistance mutuelle contre le désir et le discours de l'analyste, avec Alfred Adler, qui, selon Freud, est le tenant du stupide Auguste de cirque qu'est le moi. Stekel est un médecin, élève du sexologue Kraft Ebing, dont l'homologue Havelock Ellis se trouve pour Lacan à la conjonction d'une certaine foulerie avec une canaillerie fondamentale. Stekel entame son analyse avec Freud en 1902 et il écrit qu'elle ne dure que quelques séances, ce que démentira Freud selon Jones. Il reçoit des patients en analyse, entre guillemets, à partir de 1903. Il fait partie des premiers membres de la Société psychologique du mercredi, fondée en 1902 par Freud, sur son impulsion à lui, Stekel, et il en est un membre très actif durant une dizaine d'années. Durant ses soirées du mercredi, Freud le critique très souvent, notamment sur le fait qu'il ignore l'inconscient au profit des processus conscients et sur le fait qu'il fait référence sans pudeur à sa masturbation, dont il généralise la clinique à tous les cas. Stekel s'oppose à Freud et en 1911, il quitte la vice-présidence de la Société psychanalytique de Vienne, qui a pris la suite de la Société du mercredi, puis il en démissionne un an plus tard. Il crée alors l'Institut de psychanalyse active, c'est-à-dire de psychothérapie brève, à Vienne. Et il fonde plusieurs revues de psychothérapie qu'il dirige. En 1925, au moment du procès contre Reich, il milite très activement, très très vivement, contre la psychanalyse laïque. Il émigre à Londres au moment de l'Anschluss, et il s'y suicide en 1940 d'une surdose d'aspirine pour, écrit-il dans sa lettre d'adieu, mettre fin à la souffrance liée à sa prostate et à sa gangrène diabétique. Dans ses écrits tardifs, il refuse l'inconscient, arguant que le malade se masque délibérément la vérité par inconsciente ou préconsciente, dont il a au fond conscience, afin d'échapper à la réalité insupportable dont le complexe est le masque. Il est d'ailleurs une référence de la forgue et de sa scotomisation. La forgue avec qui Freud bataille, critiquant l'incroyable niaiserie des objections que celui lui oppose. Jones décrit Stekel comme un théoricien toujours prêt à inventer des cas en fonction des besoins de sa démonstration, selon le propre aveu de Stekel. Alors, je cite Jones, « Il se trouvait dans le caractère de Stekel un point faible qui le rendait incapable de travailler d'une façon rigoureusement contrôlée. Il était totalement dépourvu de conscience scientifique. C'est pourquoi nul n'accordait crédit au fait qu'il rapportait. » Le conflit avec Freud, attisé par un problème de publication, atteint un point de non-retour quand Stekel élabore un travail sur la relation entre les noms et le destin. Il y parle de la manière dont leur nom avait influencé le choix professionnel et d'autres aspects de la vie de certains patients. Freud lui reproche d'avoir publié le nom de ses patients et Stekel lui répond que ce n'est pas important puisqu'il s'agit de cas inventés. Voilà. Donc là, Freud n'a pas vraiment apprécié. Une certaine forme de biologisme et de cognitivisme traverse son œuvre, dont les centres d'intérêt sont proches de la sexologie. Frigidité, impuissance et effet de l'onanisme qui s'étendent à longueur de titre en sont le témoin. Jung dresse de lui ce portrait dans une lettre adressée à Freud en 1909. C'est un homme sans discipline et sans critique qui gâte toute discipline. Le malheur est seulement que de nous tous, c'est lui qui a le meilleur flair pour l'inconscient. Car c'est un cochon absolu et nous sommes en réalité des honnêtes gens qui ne se rendent à l'évidence que malgré eux. Évidemment, on peut se demander ce que Jung entend ici par inconscient. Le 14 mars 1911, donc 2 ans après, Freud écrit à Jung, reprenant la métaphore de Jung, « Le nouveau livre de Stekel sur le symbolisme des rêves est toujours riche de contenu. Le cochon trouve des truffes. Mais pour le reste, une cochonnerie. Sans une tentative de synthèse, plein de généralités creuses et de nouvelles généralisations de travers. Fait avec une négligence incroyable. Cacatum non est pictum. Chier n'est pas peint. » Stekel représente, je cite toujours Freud, l'inconscient pervers non corrigé, Adler le moi paranoïaque. Les deux ensemble donneraient à peu près un homme psychanalytique. Et bien plus tard, en 1924, alors que Stekel lui a proposé une nouvelle collaboration, Freud écrit à Ferenczi que son ancien disciple est un cas de folie mentale. Ce que corrobore la crudité de son rapport à la sexualité, bien loin de la pudeur mise en exergue par Lacan, ce que corrobore aussi l'idée de Jung que Stekel a le meilleur flair pour l'inconscient au sens de Jung. Notons aussi que ses interventions à la Société du Mercredi sont constellées de références à Fliess et qu'il développe une curieuse étiologie de la psychose. Elle serait liée au fait que le cerveau, dans son développement, se heurte à un crâne trop petit, entraînant l'abéance de certaines sutures crâniennes. Bon, enfin, c'est proprement délirant, évidemment. Dans son ouvrage de 1906, « Les origines de la nervosité », Stekel donne des exemples de sa pratique. Il étudie le cas d'un caissier chez qui il décèle un désir de vol, s'opposant à un souhait de probité. Pour Stekel, le patient a sombré dans la nervosité pour avoir eu ses idées de vol. « Votre maladie, lui déclare-t-il, tire son origine du refoulement de l'idée de décamper avec une grosse somme. » Puis, à la fin de cette unique séance, il le congédie en lui disant « Je ne vois pas d'autre moyen de guérison que d'échanger votre emploi de caissier contre un autre qui vous donnera peut-être plus de travail, mais qui vous offrira moins de tentations. » Et cela s'arrête là. Alors, pour Stekel, l'analyse doit être rapide et lorsqu'elle ne peut pas l'être, c'est parce que le patient n'est pas adapté à ce type de soins. Dans les états de névrose d'angoisse et leur traitement, paru un an après la nervosité, il cite le cas d'un rabbin qu'il traite pour une névrose d'angoisse. Au bout de 2 semaines, à raison d'une séance quotidienne, le rabbin résiste toujours à Stekel, qui envisage d'interrompre l'analyse. Mais à quoi ce patient résiste-t-il? Aux questions sexologiques que Stekel lui assène à longueur de séance. Qu'est-ce qu'il peut raconter en matière de sexualité? Se masturbe-t-il? A-t-il des imaginations sexuelles exagérées? Stekel continue l'analyse cette fois et le patient se remet après une séance mémorable, dit Stekel. Durant cette séance, Stekel lui explique que ses actes religieux s'imprégnaient d'une symbolique sexuelle secrète. Et Stekel de conclure, le lendemain, le patient essaye de réciter des prières dans une synagogue et il y réussit sans peine et sans accroc. On peut penser que ce patient a réussi à s'analyser un peu, malgré Stekel, et grâce à son désir décidé et à son propre savoir textuel. Son propre savoir textuel. Lacan ne dit-il pas que le talmudiste nous précède ? Les origines de la sexualité, qui témoignent d'une pratique et d'une théorie éloignée de celle que Freud élabore, est très fraîchement accueillie par la société du mercredi. En somme, tous s'accordent à relever des traits de canaillerie chez Stekel sur le plan épistémique, technique, politique, dans son rapport à Freud à qui il reproche en partie à tort une trop courte analyse, ce qui lui a d'ailleurs peut-être permis d'échapper à une plus grande bêtise encore. Il lui reproche aussi de l'avoir plagié, que Freud ne l'ait pas plagié, donc dans sa théorie de l'angoisse et la pulsion de mort. Le diagnostic de Freud de folie mentale concorde bien avec son abord très cru de la sexualité qui évoque le physéro de la forclusion du phallus plutôt que le voile phallique que tend le démon de la pudeur, lié au désir de l'analyste. Donc. Lacan, lors du séminaire 1, et je dois cette référence à Armando, qualifie sa théorie, celle de Stekel, donc de mystique et de communionnelle, c'est-à-dire de délirante. J'évoquerai maintenant rapidement un roman policier au demeurant pas très bon, bien qu'il ait obtenu 2 prix du premier roman. Il s'agit du roman de Jean-Pierre Gattegno, Neutralité malveillante, paru en 1993. Neutralité malveillante étant une expression de l'éthique de la psychanalyse à propos du surmoi. Ce roman, porté à l'écran sous le titre Passage à l'acte en 1996, se place par son exergue sous l'égide de la dialectique lacanienne du foule et du knave. Alors, je cite l'exergue. Le débile, soumis à la psychanalyse, devient toujours une canaille, comme Lacan l'écrit en 1976 en inversant sa proposition antérieure. Vous trouvez ça dans sa note liminaire à la présentation de la scission de 1953. Notons d'ailleurs que si la psychanalyse rend un foule knave et un knave foule, on peut se demander en guise de plaisanterie si Decur à la suite ne ramène pas à l'état de départ. Bon. Mais revenons au roman. Il décrit un analyste, bête et rendu canaille par sa propre analyse, qui face à un analysant paranoïaque et manipulateur, sort totalement du discours analytique pour atteindre des sommets de canaillerie, dans une identification massive et dans une névrose de transfert paroxystique à ce patient, alors qu'il, l'analyste, est en passe de tout perdre. Il s'agit bien évidemment d'une fable. Enfin, il y a le risque institutionnel. Il y a un croisement, une foulerie individuelle donne une canaillerie de groupe et vice-versa. Et le 26 février 1977, à Bruxelles, Lacan se demande si la loufoquerie psychanalytique n'a pas pris la place sociale qu'occupait l'hystérie auparavant. Cette foulerie analytique est-elle individuelle ou de groupe? Et si elle est de groupe, comme la phrase de Lacan le laisse entendre avec le terme de champ social, suppose-t-elle une addition de canaillerie psychanalytique individuelle? Le risque est aussi que le discours analytique devienne un discours vraiment pesteux, tout entier voué au discours capitaliste, comme l'évoque Lacan à Milan le 12 mai 1972. Mais je ne pense pas que nous en soyons là, en tout cas pas partout. Le risque est surtout que moins l'on soit de saint et non de fou, moins l'on rit. Je vous remercie.
Merci beaucoup Muriel, tout à fait intéressant. Je passe tout de suite la parole à Armando Côté, qui est psychanalyste à Paris, AME de l'école, et qui va nous parler sous le titre « Ça rêve, ça rate, ça risque ».
Merci Radou. Bon, il manquait prudence. Prudence, oui. Ça rêve, ça rate, ça risque. Voilà, c'est pas grave.
J'étais pas prudent, donc j'ai sauté.
Voilà, donc je prends un autre point de vue que celui de Muriel, mais on va s'y croiser. Donc les trois livres, vous l'avez compris, donc de Freud, qui ont servi à Lacan pour son retour, l'interprétation des rêves, sa rêve, la psychopathologie, la vie quotidienne, sa rate, et les mots d'esprit, sa rire, sa rit. Donc dans sa conférence en 68, pardon, à Bordeaux, intitulé Place, origine et fin de mon enseignement, Lacan disait qu'il était au service de quelque chose qui est arrivé et qui a un nom, Freud. Lacan, nous le savons, il ne s'arrête pas dans un simple retour à. Il va rajouter à la série freudienne la pensée, sa pense. La pensée peut rendre malade, il y a des pensées qui circulent, c'est un phénomène continu qui est constitutif d'un certain champ. À sa rêve, sa rate, sa rit, Lacan ajoute sa pense, à un niveau où les moi ne savent pas de quoi il s'agit. C'est ça la découverte de l'inconscient, un champ où les ça veut se saisir de soi-même comme pensée. C'est la prudence de Freud et son mérite d'avoir jugé autrement à une époque où rien n'était moins contestable que la supériorité de la pensée. La pensée positive, elle était excessive. L'inconscient pour Lacan, c'est un fait nouveau qui dévoile justement qu'il y a des pensées inconscientes qui sont transparentes à soi-même et qu'on ne peut pas penser sans savoir qu'on pense. Il a montré dans son enseignement que la réfutation de l'inconscient est irréfutable. Mais pour les démontrer, ça ne va pas de soi. C'est sur ces points que Lacan restait prudent, surtout avec les analystes. En effet, les non-analystes ont déjà une idée de ce qu'est la psychanalyse. Ce n'est pas grave en soi. En revanche, les analystes qui croient savoir ce que c'est l'inconscient, ou encore pire, qui veulent rien savoir sur lui, c'est pour eux qu'il faut rester prudent. Il y a deux types d'analystes. Un pour qui l'expérience analytique est une technique et d'autres pour qui c'est une expérience du réel. Pour les premiers, les techniciens, il faut appliquer donc, on fait des analyses sans se poser la question de ce qui s'y passe. On part du principe qu'on le sait, qu'on n'en parle pas. C'est une très grande faiblesse de la psychanalyse, dit Lacan. Cette attitude qui est tenable, ça tient, il est plus, existe un penchant de ce type de pratique qui reste prudente. Justement parce que pris au collectif, c'est un fait, ils veulent qu'on sache qu'ils sont là pour les biens de tous, dit Lacan. Ils font alors de la propagande dans un style boniment. Parce que, dit Lacan, pardon, il y a les deux, les bons et les biens. C'est la propaganda fide, dit Lacan. Ça s'est fait, pourquoi pas, mais la question est de savoir si pour la psychanalyse, c'est tenable dans ce type de groupe. La psychanalyse, à travers ses boniments, a joui d'un certain respect, d'un prestige, mais cette prudence qui est bonne n'est pas la vraie. Parce que justement, c'est sur ce point que Lacan dit qu'il est plutôt du côté des Ponce Pilate, comme l'a dit tout à l'heure Muriel, qui a tiré les choses non du côté des boniments, mais de la vérité. Il n'a pas eu de chance, Lacan non plus. Il a posé la question de la vérité là où il ne fallait pas. La vérité elle-même, dit Lacan, chaque fois qu'il passait devant un idole, pouf, les ventres de l'idole s'ouvraient et l'on voyait qu'elle n'était qu'une tirelire. C'est à cet endroit qu'il existe un risque, qui est le lien entre l'éthique de la psychanalyse et la prudence, la bonne et la vraie. Il s'agit pour Lacan de subvertir l'analyste qui prône les boniments Pour cela, il fait allusion à Balthasar Gracien, précurseur des Nietzsche et des Mencius. Lacan part de l'opposition entre la bonne et la vraie prudence pour traverser et rencontrer les réels. Prudence vis-à-vis de quoi? Revenons au diagnostic que Lacan fait en 1956 sous la formation de l'analyste. C'était la façon de rendre hommage à Freud pour son anniversaire de sa naissance. Les diagnostics et sans appel, vous les connaissez, ils montrent bien la raison pour laquelle Lacan insiste sur la prudence en 73. Lacan ouvre les textes en 5-6 pour une dénonciation des apparences. La première dénonciation est que l'expérience analytique est confinée à ce moment-là à des préceptes et non des concepts. Il va démontrer que la formation du psychanalyste, formation valable, a des effets du scan estime des vies et sa relation au monde. Étant donné la décourageante littérature qui traite de l'expérience analytique à l'époque, Lacan propose prendre la situation de la psychanalyse, non du côté des psychanalystes, mais de la psychanalyse elle-même, parce que c'est la psychanalyse la première qui décide. Le constat de Lacan est qu'aucune notion nouvelle n'y a été introduite depuis Freud, ce qui a produit des discordances diffuses entre les termes et l'expérience. Donc, il manque une rigueur sous les exigences d'un concept. Lacan donne un exemple de la description d'une fin d'analyse de l'époque. D'après tant d'années, je cite, d'analyse, mon patient ne pouvait toujours pas me sentir. Un jour, enfin, mon insistance, non moins patiente, en vient au bout. Perçu mon odeur, la guérison était là. On pourrait penser que c'était la COVID, mais bon, ce n'était pas la période, mais c'est la description d'une fin d'analyse des 5-6. Cette odeur est importante. Elle porte un trait de noblesse. Lacan fait allusion au docteur et membre de la Société royale réunie en une association jalouse de son secret. L'état des complots et secrets qui forment des gens inquiets et ambitieux. Les canailles et bêtes dont parlait Muriel tout à l'heure. Pour sortir de cette impasse de la présence de l'analyste, Lacan fait allusion au bénéfice du matérialisme freudien, qui nous dépouille, dit-il, de notre histoire, nous assure de sa permanence sous la forme symbolique. Lacan procède à une rectification salubre de la découverte de Freud. Sa vérité est à prendre à la lettre, c'est-à-dire que l'ordre symbolique existe avant la naissance de l'homme et au-delà de sa mort. La IPA, donc l'Association internationale des psychanalystes, prône une forme d'autorité et détermine des modèles, des modes d'exercice et des transmissions du pouvoir. Lacan va donner au nom, aux places et fonctions de ces groupes. Vous les connaissez, je vous les rappelle, les sous-fiscences au grade unique de la hiérarchie psychanalytique, sous-fiscences par lesquelles ces sous-fiscences à elles-mêmes. Pour se transmettre, elle dépend de l'adoption qui suppose une alliance ou reproduction imaginaire. Ces sous-fiscences sont constituées en société et les choix sont coaptatifs. L'insuffisance est insoutenable, souligne Lacan, dans ce type de dialectique. C'est une catégorie de l'être qui exclut. C'est un point important concernant la prudence. De la suffisance qui doit être la bonne pour ne pas dévoiler les insuffisances. Pour ceux qui se rangent dans les suffisances, Lacan donne la place et nomme les petits souliers. Ils sont toujours dans leurs petits souliers, ils s'arrangent d'une suffisance voilée. L'organisation est laissée donc un bien nécessaire qui entrave tout lien social et délie les suffisances. Ils suivent des préceptes comme les moutons des Panurgues. Ce type d'organisation fait prévaloir les idéaux et les images produisent un des effets des groupes, des effets narcissiques dont la jalousie fraternelle à la acrimonie conjugale. La référence au Führer et à la Schadenfreude, donc la joie mauvaise qui satisfait l'opprimé, ses sentiments est un refus des savoirs et une connaissance qui communique sans communiquer, qui appelle à la haine. Ce point est important concernant l'opposition entre la Schadenfreude, donc la joie mauvaise, et les gais savoirs et les rires doucants dont Lacan fait allusion dans Télévision. Une prudence vraie produit un savoir qui ne pense pas, ne calcule pas, ne juge pas. C'est un savoir qui permet au sujet de l'inconscient, de les prendre pour cause de son désir et est plutôt du côté du gai savoir et non de la Schadenfreude, donc de la joie mauvaise. Entre les séminaires 7, où la position était du côté des moralistes autour du bien et du mal, en Télévision, en s'appuyant sur Balthasar Gracien, Lacan peut aller au-delà de l'homme bon, des boniments. L'important étant non si l'homme est bon ou mauvais, mais ce qui donnera après, c'est-à-dire les lois du désir. Pour instaurer l'idée des bons, il faut se servir des lois du langage, c'est-à-dire que ce qu'il y a de bon dans les discours, discours analytiques, pour qu'ils vous commandent. La position des saints qui propose Gracien permet de prendre la mesure des semblants qui gouvernent les liens sociaux qui fondent les discours analytiques. Il faut souligner la prudence de Lacan quant à sa manière de procéder sans laisser des traces de toutes ces querelles du passé. Balthasar Gracián dit « Nunca defenderse por la pluma que deja rastro, astucia de indignos oponerse a grandes hombres para ser celebrados por indirecta. La verdadera venganza es el olvido. » Lacan suivit à la lettre les conseils de Balthasar Gracián. Il disait qu'il fallait savoir jouer du mépris quand on cherche à nous mépriser. Ce qu'il cherche, c'est d'être glorifié de manière indirecte. Mais la véritable vengeance, c'est l'oubli. Il ne faut point répondre à la calomnie. Si l'on fait crédit, on se discrédite, écrit Gracien. Quand Lacan parle des risques dans la Télévision, dans la phrase qui nous occupe, c'est pour eux qu'il y a des risques. Pour qui? Je dirais pour les analystes. Qui, comme des moutons des panurges, se réclament du discours analytique, non pour les servir, mais pour se servir de lui. C'est la raison pour laquelle Lacan demande de faire la différence entre la bonne et la vraie prudence. Il y a deux types de semblants, un semblant qui est de l'ordre de l'évitement et un semblant que Balthasar Gracián appelle la montre, qui cherche à retourner les discours du maître pour dévoiler l'objet cause et l'essence du rébus. Pour parler de Gracián, à ce moment-là, excusez-moi, pour parler de Gracián, pourquoi Lacan parle de Gracián à ce moment-là? Balthasar Gracián est une référence de Lacan depuis 1950, donc du séminaire 1, où je vais utiliser seulement cette citation. Vous trouvez ça dans les écrits techniques de Freud, dans la page 191. C'est un peu, justement, pour faire lien un peu avec Muriel et Stekel. Donc, et Lacan parle de la introjection, ces notions freudiennes, et il dit, supposons qu'on envoie tout d'un coup un ethnologue dans un pays qui n'aurait jamais entendu parler de cette foutue analyse et qui serait ici soudain et entendrait ce qui se passe dans son analyse. Il dirait, très curieux, primitif, des analysés qui bouffent leur analyste par des petits morceaux. C'est une référence à Balthasar Gracien. Balthasar Gracien, je le considère, dit Lacan, comme un auteur fondamental. Nietzsche et La Rochefoucauld sont petits à côté. Son traité El Comulgatorio, l'art de communier, sur la communion, conçu d'une façon concrète et valable, du moment qu'on croit à la communion. La notion de communion comme une sorte de communion à la carte, c'est bien pour ceux qui croient à la transubstantiation. Mais pour nous autres analystes, dit Lacan, soucieux des sciences et raisonnables, nous pouvons voir sous la plume de Stekel ou d'autres auteurs ce que c'est en fin de compte que cette espèce d'introjection d'ossée de l'analyste, qu'un observateur du dehors ne pourrait transposer que sur un plan mystique. Gracien occupe une place éminente dans la littérature hispanique, dans les débats du XVIIe siècle, entre les jésuites et les jansénistes, et de manière plus générale avec les grands écrivains moralistes. La question de la prudence vraie est en lien avec la question du semblant et son lien avec la vérité. La mitad vale más que el todo, la moitié vaut mieux que les tout, écrit Lacan, et Gracien, pardon. Et il précède les patous lacaniens, justement, et fonde un principe qui doit éviter la complétude imaginaire qui est le propre de l'homme des cours. Un principe pour la vie. Autre prudence est la bonne que pratiquent les groupes, qui pensent qu'ils font les biens et qui sont bons, des boniments. C'est pour eux qu'il y a des risques. Dans l'étourdi, Lacan est radical. Cette vie des groupes est ce qui préserve l'institution dite internationale, IPA. Et c'est ce que j'essaye de proscrire de mon école. Ce n'est pas moi qui vaincra, c'est le discours que j'essaie. C'est le discours qui vaincra. L'analyste doit rester prudent. Il doit privilégier sa position dramatique, puisqu'à la fin de l'expérience, il faut qu'il sache lui-même s'est éliminé, dit Lacan dans la conférence Mon enseignement, page 137. Lacan refuse par prudence vraie, par exemple, de signer une pétition pour lever l'interdiction du livre Éden, Éden, Éden de Pierre Guillotin. Pour que ces mots obscènes puissent circuler librement, il refuse parce qu'il considère cette tentative désespérée, sans espoir, et qu'elle ne peut pas créer, elle ne peut créer que des malentendus. Voilà un exemple de prudence de Lacan par rapport au discours analytique. Il ne peut pas soutenir des causes désespérées pour éviter de produire encore davantage des malentendus. Sa prudence fait interprétation et refuse de tomber dans les boniments. Pour Lacan, il est impossible que les analystes forment un groupe, mais sa proposition du discours analytique est une manière de fonder un lien social nettoyé de toute nécessité des groupes. Parce que justement, l'effet des groupes est toujours obscène. Dans l'étourdi, il dit à ses propos, fixer la limite où ces semblants n'est plus que décent, en deux mots. Rien n'opère donc que d'équivoque signifiante, soit de l'astuce par quoi l'absence en deux mots du rapport s'est apponérée au point de suspens de la fonction. Fin des citations. Le semblant est un lien avec les décents en deux mots et l'absence des rapports sexuels. Le semblant et la vérité se situent au niveau du rapport sexuel. C'est le point central, il me semble, qui est dicté par les discours du névrosé. La limite du discours s'impose quand il s'agit du rapport sexuel. Il s'explique, et j'ai conclu avec ces points, les discours analytiques mettent en lien la mort et l'amour, mais ce qu'il y a à trouver est qu'il n'y a pas d'assurance amour parce qu'il y a la haine qui se pointe dans chaque groupe. La vie des groupes n'en dénomme jamais que de la haine. Pour éviter de se trouver à chaque fois dans cette configuration, Lacan propose que l'analyste soit à cette place des déchets. Je cite, c'est bien de quoi l'analyste pourrait être sauvé, de ce que son discours les rejette lui-même, à éclairer comme revue du langage. C'est dans l'étourdi, c'est page 476. Il est donc évident que Gratien, en donnant au terme santo, les saints, une signification profane, celle d'une vertu qui assure un sage, donc l'intéressa, l'intégrité morale, a adopté dans ce dernier aphorisme, en accord avec les principes proposés par Ignacio de Loyola, le grand maestro, une position qu'on peut qualifier de néo-stoïcienne. Ça veut dire que l'art de la prudence, de son oraculo manual, ne s'inspire pas seulement des stratagèmes de la prudentia des anciens, mais se fonde également sur la sapientia des stoïciens, pour qui la vertu était la seule garantie de la félicité humaine. Le génie de Lacan a été de créer un nœud entre la prudence et la pudeur qui seuls les discours analytiques possèdent, c'est-à-dire un kairos, un temps qui lui est propre pour mesurer et vérifier à la fin si la levée du voile, comme dans la Villa des Mystères, il cache mais il montre qu'il a dû dissimuler. C'est un simulacre qui indique qu'il y a du réel. La prudence vraie gouverne les bien-dire qui, de façon homologue, produit un chemin vers la seule vertu qui est la pudeur, sœur de la prudence. Merci.
Merci beaucoup Armando, formidable. Vous étiez formidables tous les deux, je trouve. Maintenant, comme il n'y a pas de modérateur, parce qu'on s'est dit que parfois les modérateurs font un troisième exposé, si vous voulez, j'ai 10 pages, je peux vous les lire, mais bon, je vous épargne. Je lance la discussion tout de suite et c'est à Muriel et Armando de se débrouiller avec des questions qui vont se poser l'un à l'autre. Et je veux juste souligner avant que j'ai trouvé que c'était un extraordinaire travail d'élaboration et de transmission parce qu'ils se sont échangés les textes au moins une semaine à l'avance. Ils m'ont convié à une conversation dimanche soir, évidemment, d'une heure qui a été super passionnante autour de, enfin, on a parlé du risque de la prudence en analyse et en dehors. Donc, je veux vous féliciter pour cette initiative et de dire que, enfin, c'est quelque chose qui peut se faire et que ça apporte des fruits. Donc, je vous laisse, collègues et amis, poursuivre.
Armando, tu commences?
Oui, Muriel, oui, parce qu'effectivement, on avait déjà commencé un peu l'échange et la conversation. Et c'est vrai qu'en te réécoutant, il y a la question de la pudeur radicale qui t'amène. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai tenté de faire aussi les liens justement entre cette pudeur, et les désirs de l'analyste qui t'amène et la prudence.
Oui.
Donc, je ne sais pas si pour toi, tu pourrais nous dire un peu plus de ces radicalités de la pudeur, parce que je pense que là, Lacan nous indique quelque chose qui est un lien avec la prudence, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé à l'école justement de cet art des printemps et s'est positionné vis-à-vis pas seulement de l'analyste, de ce qui rentre un analyste, mais aussi dans la position politique d'une école, par exemple. Mais penser en tant que discours analytique. Et je pense que tout est centré sur ces points centraux qui étaient amenés aussi, c'est l'objet petit a où il y a quelque chose qui est central. Donc, je ne sais pas si tu pourrais.
Oui. Bon, sur cette histoire de pudeur, oui. Enfin, Lacan met la pudeur sur la couverture de télévision, hein?
Ouais.
Donc, déjà, c'est quelque chose d'indicatif. Oui, effectivement. Disons que au moment des moments cruciaux, il n'a pas encore dit, mais c'est vraiment tout à fait évident évidemment en lien que on ne peut pas écrire le rapport sexuel. Mais c'est ça. C'est-à-dire que cette pudeur à respecter. Jusqu'à quand même, elle baisse un peu sa garde, hein, ça Lacan le dit aussi, est liée à cet impossible du sexe, à ce réel du sexe impossible. C'est dit déjà à ce moment-là. Et effectivement, je l'ai mis en corrélation avec l'aleph de l'angoisse, qui là aussi est liée à un réel, hein, un réel qui ne se représente que par l'objet, comme le chauffard, par exemple. Bon. Alors, par rapport à la pudeur institutionnelle, la citation que tu amènes dans L'étourdi, en fait, il dit que finalement, on se rend très bien compte de la haine qu'il y a dans les groupes analytiques, mais on oublie l'amour qui existe aussi. Et que, oui. Et je crois que cette pudeur va avec l'art de la montre, hein, dont tu as parlé chez Gracian, qui est effectivement la question du midir, la question du patou, la question comment dire, justement, de montrer une absence. Hein, c'est exactement ce que je dis, absence d'essence. Et je suis tout à fait d'accord avec ta conclusion sur le fait que pudeur et prudence sont absolument liées et que la vraie prudence est liée à cette absence, à ce réel. Voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes encore un autre exemple de l'art de la montre, si c'est possible. Tu en as donné plusieurs, mais si tu en as un autre en tête.
Par rapport à Lacan, c'est vrai, alors que les midir, comme ça, des têtes, j'ai pas
Oui,
celle
mais
que j'avais.
même chez Gracian, l'art de la montre, chez Gracian, que...
Oui, par rapport à la fin, il y a quelque chose qu'il dit que, bon, il y avait plusieurs citations que Lacan avait reprises, mais. Mais il y a, c'est lui qui, c'est là, 2011, où il parle de dans les ciels. Donc, il me semble que c'est important parce que c'est toute la question de la fin. Et parce que Gratien, il faut savoir que El Comulgatorio, c'est le seul livre que Gratien a signé de son nom propre. Et les autres Gratien, comme Lacan, il n'a pas été jusqu'à la point d'être excommunié, mais il a été quand même sanctionné à cause de ses écrits, quand même. Parce qu'il est allé très loin. Et la référence qu'il donne Lacan par rapport à la traduction des Gratiens, c'est justement qu'il a été mal compris parce que l'homme des cours, justement, il pensait à l'époque, la personne qui l'a traduit, qu'il voulait faire un traité sur comment vivre dans son cours, c'est-à-dire comment pouvoir devenir un homme politique correct. Alors que justement, il voulait montrer justement justement quelque chose qui va au-delà de l'homme des cours, que c'est l'homme de tous les jours, quoi, en quelque sorte. Et là, parce qu'il me semble que ces questions de la fin d'analyse que Lacan introduit avec les discours analytiques est un lien avec ces places d'objet petit a, parce que c'est une place où l'analyste, à chaque fois qu'il investit de quelque chose qui est de l'ordre du semblant, il doit refuser ses places pour pouvoir arriver à cette fin, en quelque sorte. Place en tant qu'objet petit a. Donc, juste Gratien, il parle de C'est ça, c'est entre deux. Il dit, dans les ciels, tout est liesse, dans l'enfer, tout est détresse, dans les mondes entre deux, l'un et l'autre, nous sommes entre ces deux extrêmes, donc participation entre les deux. Les deux sorts s'alternent, tout n'est donc pas bonheur et tout n'est pas malheur. Ce monde est un zéro, tout seul, il ne vaut rien, joint au ciel beaucoup. L'indifférence a son inconsistance et sagesse, car la nouveauté n'est pas l'effet des sages. Ça, c'est intéressant, c'est une critique par rapport aux sages, donc à la sagesse, parce que toute la question de la prudence, c'est pas une question de savoir. Mais il dit, notre vie se déroule comme une comédie, les dénouements, c'est la fin, attention donc à bien finir. Et donc là, il parle justement de finalement toute la question du temps logique, de l'anticipation, de la précipitation, que c'est tout l'art de la prudence. Et on avait parlé justement dimanche de cette hâte pour finir et cette précipitation que parfois on existe sous la fin et comment c'est en quelque sorte ces questions de la prudence qui ramènent Lacan en télévision. Il me semble qu'ils introduisent justement la question de la liberté. C'est la liberté que le discours analytique ouvre par rapport aux autres discours. C'est-à-dire qu'il se pose, se positionne pas au-delà, en deçà du bien ou du mal, mais dans son place qui est la place justement de la prudence, d'une prudence qui est la vraie pour les discours analytiques. La seule qui est tenable, il me semble. Donc, bon, il y a beaucoup de références comme ça. Je trouve que Lacan, il s'est servi des Gratiens, mais bon, la prochaine fois, justement, on va parler du sang, du santo, et cette figure commune, quand même, je pense qu'il faut qu'on la travaille un peu plus pour notre école et pour savoir qu'est-ce qui nous indiquait. Avec ces figures précisément, que c'est une figure qui justement, le santo, il est canonisé après sa mort, en quelque sorte. C'est-à-dire que pendant son exercice sous la terre, il n'est pas nommé en tant que tel. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, sinon, peut-être on pourrait, s'il n'y a pas de questions, parce que
Il y a
là, oui,
des
il y a deux
questions, il y a
questions,
deux
l'astro
questions.
et Colette solaire, oui.
Il y a Marc et Colette, donc
Ouais.
Marc d'abord.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez?
Oui.
Oui, alors bonsoir à tous. Ce n'est pas parce qu'on est sur Zoom qu'il faut perdre les bonnes habitudes. Merci aux intervenants et à leurs deux exposés extrêmement riches. Muriel, tu ne nous as pas ménagé. Il y a 1 000 questions à te poser. Donc, je t'attrape par la fin, si tu veux
Oui.
bien. Quand tu as fait référence à cette conférence de Lacan de 77 à Bruxelles, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et qui m'amuse tellement encore. Alors, tu faisais référence, Lacan, effectivement, se lamente, chante, où sont les belles hystériques d'antan? Et il pose la question, sont-elles aujourd'hui dans la bouffonnerie analytique? Moi, je trouve que c'est une question très sérieuse. Et au fond, si ce que Lacan dit là est vrai, ça ferait de nous des héritiers tout à fait respectables du discours hystérique. Alors, pourquoi est-ce que tu en fais un risque? Un risque d'autant que c'est quand même absolument inévitable, l'expérience le prouve. Voilà, c'est une petite question comme ça sur la fin de ton exposé. Armando, justement, par rapport à ce que nous a aussi rappelé Muriel, le contexte de guerre permet.
Aïe, aïe, aïe,
Quand,
aïe.
jusqu'à la fin de sa
Ça coupe.
pudeur, décence, patience, peut-être, tu l'as pas dit, ou peut-être, je ne sais pas.
Non.
Bon, en tout cas, tu laisses bien entendre, tu montres bien comment cette position relève, illustre, met en acte cette décence analytique, met en acte la position des analystes, ce qui fait de nous, d'une certaine façon, des Émiles de Gratiane. Au sens où on croit quand même qu'une communion est possible. Pas toutes, mais contre l'obscénité mythologique, celle qui régit l'ordre social. Alors, comment tu articules ce fondement analytique du discours, cette patience, cette décence, cette pudeur, et l'histoire des guerres du mouvement analytique? Ça n'a pas cessé de se taper dessus.
Bon, donnons la parole à Colette. Colette.
Oui, bonsoir alors à tous et merci aux exposants. Je ne peux que vous dire ce que j'aurais aimé qu'on explique de ce texte et qui me reste inexpliqué, malgré le côté très foisonnant des deux exposés. Alors, Balthazar Gracian, c'est très important, mais je n'interviens pas sur ce point, puisqu'on va en parler de toute façon la prochaine fois. C'est au centre de la prochaine séance. Alors, je note que ce texte parle des analystes de l'IPA. C'est d'un bout à l'autre. Et qu'il n'est pas du tout manichéen. Il n'est pas du tout manichéen, avec d'un côté les vrais, avec le vrai désir, etc., etc., et puis les autres. C'est même quelque chose qui me frappe énormément dans ce texte, par rapport à d'autres textes où il y a une exaltation de l'acte ou du désir de l'analyste. Là, c'est « ils fonctionnent, les analystes, tous, ils fonctionnent ». Bon, et ça devient difficile avec ça de distinguer les fonctionnaires des autres, puisqu'ils fonctionnent tous. Et ils fonctionnent parce qu'ils sont instruments. Il y en a qui s'analysent avec eux. Donc désormais, on ne pourra plus dire « il a été analysé par un tel », « il a été analysé par Lacan ». Il faudra dire « il s'est analysé peut-être avec un tel ». C'est un gros infléchissement hein, dans la façon de parler, parce que pendant très longtemps, et on trouve encore écrit parfois « analysé par ». C'est fini avec ce texte. Hein. La charge a changé de côté. Alors, la première question sur le paragraphe ils fonctionnent même s'ils ne veulent rien savoir de leur discours. Eh ben, la première question, c'est comment le discours subsiste? Qu'est-ce qui fonde le discours? Si ce n'est pas l'acte analytique, un acte éclairé par l'analyste? Il faut répondre à cette question, me semble-t-il. Je fais remarquer qu'il y a d'ailleurs un texte homologue à « Il fonctionne », c'est dans l'introduction à l'édition allemande des écrits, exactement même date, où Lacan dit « Les analystes, disons ceux qui seulement de se poser comme tels en tiennent l'emploi, seulement de se poser comme tels on en tient l'emploi ». Évidemment, ça questionne, hein. Ce n'est pas une exaltation de la position de l'analyste, plus rien de tout ça. Il dit « je l'accorde de ce seul fait, les analystes, je le dis donc au sens plein, qu'ils me suivent ou pas ». Bon, c'est vraiment une façon d'homogénéiser le champ, complètement. Et donc, comment le discours peut-il se soutenir avec un analyste qui n'est pas pensé comme l'agent du discours? Ça, c'est une question. Je ne dis pas que c'est la réponse. Je ne vois qu'une indication dans l'enseignement de Lacan qui répond à ça. Je n'en vois qu'une qui, pour moi, répond. Hein. Si je ne me trompe, dans les textes de Silly 7.1, c'est pas la méprise du sujet supposé savoir, c'est un des deux autres textes où il dit « qu'est-ce qui fait qu'une psychanalyse est freudienne ?» Et il répond « c'est le dispositif ». C'est le dispositif sur lequel les analystes eux-mêmes sont sans prise. Ça veut dire qu'ils le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas, le dispositif freudien d'association libre sous transfert en lui-même soutient le discours que les analystes, c'est la seule réponse que je vois qui me permette à moi de comprendre pourquoi il peut dire, eh bien, dès lors qu'il y a ça, ça fonctionne. Il fonctionne et ça fonctionne. Alors, l'autre point, c'est sur la fin. Vous avez tous les deux cherché, vous avez apporté toutes sortes de considérations, je dirais, supplémentaires. Hein. Intéressantes en elles-mêmes. Mais je note que quand il dit « la prudence ne leur manque pas », il est encore en train de parler de la pratique, il n'est pas en train de parler de l'institution, il n'est pas en train de parler des suffisances, des pas suffisances, tout ça, ça se passe dans le groupe IPA. Hein. Il est en train de parler de leur pratique, puisqu'il dit « à ce discours, ils satisfont ». Dans l'ensemble, la prudence ne leur manque pas. Ça veut dire la prudence dans la pratique. Je dois dire que pour moi, je ne sais pas en quoi la prudence ne leur manque pas. Je ne sais pas, et ce que vous avez apporté ne me l'a pas dit non plus, je dois dire non plus. Alors, enfin, au reste, c'est pour eux qu'il y a des risques. Voilà. Quand on dit « c'est pour un tel, il y a des risques », ça veut dire que, suivant ce qu'il fait ou pas, il risque de subir un dommage.
Ben oui.
Ah oui, ben, ouais. Qu'une canaille devienne bête, c'est un dommage. C'est les autres qui diagnostiquent le dommage. Lui, il ne perçoit pas de dommage. La canaille devenue bête ne le sait pas qu'elle est devenue bête. Et donc, ça ne peut pas être ça le risque.
J'ai aussi cité d'autres risques.
Hein les autres risques, c'est tous les autres risques.
C'est d'autres risques, oui.
Je vais vous laisser répondre, bien sûr. Je vous dis que moi, je n'ai pas été… l'histoire des risques, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Je ne dis pas que j'ai éclairé la question pour moi-même. Hein. C'est pour eux qu'il y a des risques. Ça veut dire qu'ils peuvent subir des dommages.
Ah oui.
Et des dommages qu'ils vont percevoir eux-mêmes, forcément. Pas des dommages qu'on va diagnostiquer de l'extérieur. La canaille est devenue bête. Quand on dit c'est une suffisance, tout ça, c'est pas des risques pour eux. Tout ça, c'est des dénonciations qui viennent de quelqu'un d'autre. Et donc, ça n'explique pas, c'est pour eux qu'il y a des risques. En tout cas, à mes yeux, hein, chacun a ses exigences d'explication qui diffèrent de l'un à l'autre. Voilà.
Allez, Muriel.
Bon, alors d'abord sur la loufoquerie analytique dont parle Lacan à Bruxelles. Oui, je n'ai pas dit nécessairement que c'était un risque. Je me pose la question par rapport au chiasme que donne Lacan dans l'éthique, où, disons, une foule de canailles donne une loufoquerie et une foule de loufoques donne une canaillerie. Donc, je me demande finalement à quoi tient la loufoquerie analytique, si elle est individuelle ou de groupe. Ce n'est pas vraiment un risque, là, c'est une remarque. Effectivement.
Est-ce que notre soirée relève de la loufoquerie, par exemple?
C'est une question, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Alors, je me suis demandé effectivement si c'était la loufoquerie de structure de l'analyste dont parlait Lacan à ce moment-là, ou c'était, bon, comme il parle du champ social, de la place sociale dans ce champ social, s'il parle justement du groupe analytique, je ne sais pas, mais je me suis posé une question. Alors, la question de s'analyse avec eux jusqu'à quel point? Effectivement, du coup, Stekel est bienvenu parce qu'on voit qu'avec ce rabbin, on a quelqu'un qui s'analyse avec Stekel. Et bon, jusqu'à quel point c'est de moi, justement? Jusqu'à quel point les analysants s'analysent-ils avec eux? C'est quand même ça la question. jusqu'à quel point, puisque quand même, bon, les dernières pages du séminaire 11 sont quand même consacrées à la question de l'identification à l'analyste prônée par l'IPA. Donc, bon, jusqu'à quel point les...
Ben, oui, mais il a changé d'avis, sans doute.
Il a considéré que jusqu'au franchissement du plan des identifications, il s'analyse. Peut-être aussi. Ben, peut-être qu'il y a une question de timing. La question du semblant d'objet, oui, bien sûr, il n'arrête pas de dire qu'effectivement, on peut tenir un semblant d'objet, même si on est bête, on peut tenir la position de semblant d'objet, comment dire, Lacan dit quelque part, j'ai plus la référence en tête, enfin, les analystes ne se rendent pas compte d'à quel point, à quel endroit de... Enfin, à quel endroit, je ne sais plus quel qualificatif les met leur analysant, mais à quel endroit d'ectopie quasiment, de quatrième dimension, les met leur analysant. Ils ne se rendent absolument pas compte à quel endroit ils sont pour l'analysant. Hein. Alors, par ailleurs, l'histoire de Fool et Knave, Lacan insiste là-dessus 2 ans avant quand même, même pas un an avant dans le savoir du psychanalyste, c'est un risque parce que c'est lié à la psychanalyse didactique. Et quelle que soit l'école d'origine, enfin, quelle que soit l'école.
Il n'a pas dit c'est un risque pour la psychanalyse, il a dit c'est un risque pour eux.
Pour eux, non, mais dans le savoir du psychanalyste aussi, c'est un risque pour eux. D'ailleurs, il dit, attention, s'ils ne veulent pas devenir analystes, laissez-leur un peu de canaillerie, sinon ça va être la catastrophe. Donc, il considère que c'est aussi un risque pour eux.
Ok.
Laissons les répondre.
Les analystes seulement de se poser comme tels en tiennent l'emploi. Oui, mais encore une fois, jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment de l'analyse? Bien sûr que le dispositif freudien est d'une robustesse qui nous dépasse totalement, évidemment. Dieu merci, si on peut dire. J'ai cité aussi d'autres risques que Lacan développe dans problèmes cruciaux pour la psychanalyse. C'est le risque que... Il étudie assez longuement la publication de... Enfin, ou plus exactement la communication non publiée de cette jeune psychanalyste britannique qui s'appelle Pearl, mais je n'ai pas l'impression qu'il en donne le nom de famille, et qui donc, de ne pas avoir du tout repéré ce qui se passait avec son analysant, s'est trouvée elle-même dans une névrose de transfert à l'égard de ce patient. Elle se disait elle-même totalement emprisonnée pendant 10 ans, dans une névrose de son transfert à l'analysant, psychotique en l'occurrence. Donc, il y a ces risques-là. Bon, j'ai cité les risques institutionnels. Bon, voilà. En tout cas, le cas du rabbin montre bien qu'effectivement, quelqu'un qui a un désir décidé et une culture textuelle peut s'analyser, tout au moins un temps, même avec la pire des canailles. Voilà.
Armando?
Alors, oui, donc, il y avait la question des marques. Alors, j'avais 2 options, c'est-à-dire, pour tenter d'en dire quelque chose ce soir, c'est vrai que j'ai pris un peu par rapport au rapport que j'ai à Valtas à Gracien, c'est ça qui m'a poussé, peut-être que je me suis trompé des tables, mais en tout cas, je pense que c'est mon expérience un peu, surtout pour côtoyer beaucoup d'autres personnes et analystes qui se disent lacaniens, que cette affaire des groupes n'est pas résolue aujourd'hui, c'est-à-dire que on voit que la haine et l'amour, ça reste toujours. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, malgré que Lacan a proposé la question du discours, pour mettre à plat un peu la question justement des... Et c'est pour ça que j'ai insisté à la fin, qu'il y a ces propositions de Lacan, de que la psychanalyse est un discours pour sortir de l'affaire des groupes. Mais justement, je pense qu'on n'est pas sorti du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des groupes lacaniens qui ne font pas la passe. Et moi, je les côtoie et je pense que justement, je retrouve cette prudence qui est très bonne. C'est justement ne pas parler de qu'est-ce que c'est le discours analytique, mais parle justement de la théorie analytique. Et je pense que Lacan, il insiste là-dessus, c'est-à-dire quand il parle des positions, je pense que là, il nous indique quelque chose qui n'est pas encore, en tout cas, acquis quand même. Et qu'il y a un auteur qu'on n'a pas beaucoup nommé, qui je pense qui est contemporain aussi de Lacan, et à qui il doit répondre, parce qu'il y a une urgence à ce moment-là, qui est justement Foucault, qui ouvre la question de l'ordre des discours. Et il me semble que l'urgence pour Lacan aussi dans ces années 70, c'est aussi dire que justement, que le discours analytique, c'est un nouveau discours. Et ces nouveautés, ces nouveaux discours, c'est vraiment l'urgence de répondre à Foucault qui voulait les faire noyer comme quelque chose qui n'était pas des nouveaux. Et je pense que c'est pour ça que j'ai insisté à la fin, la citation des Graciens aussi, c'est par rapport à ces savoirs qui est nouveau. Et justement, que c'est toute la question de la part, c'est tout ce qu'on doit chercher par rapport à l'acte analytique, et que c'est quelque chose à venir et qui n'est pas encore acquis. C'est toujours dans ces sens-là. Et c'est là où je pense que pour moi, en tout cas, il y a une différence entre cette prudence qui est la bonne pour se maintenir dans un groupe, et la prudence qui est orientée vers la prudence vraie, qui est orientée vers autre chose qui n'est pas le groupe, que c'est un discours. Et je pense qu'entre le groupe et les discours, vraiment, il y a, pour moi, sont deux mondes différents. Et que c'est la tentative justement des Lacan de sortir de tous ces querelles, voilà, qu'il avait très bien décrit lui-même en 56, où je pense que voilà, c'est comment les discours analytiques ne pourra pas survivre en quelque sorte s'il ne se sort pas de la question des groupes, quoi. Et je pense que ça, c'est pas résolu encore, quoi. C'est-à-dire que on voit bien
enfin,
que...
Armando, Lacan a essayé de sortir de là, mais il a quand même attisé les conflits. Après lui, il y en a eu encore, avec lui, il y en a eu encore beaucoup plus qu'avant.
Ouais.
Alors, au lieu de se lamenter, comme on le fait avec raison, sur le côté, la haine, l'amour, c'est inévitable, c'est comme ça, c'est des humains, est-ce qu'on peut partir de cet échec, y compris l'échec de Lacan, pour penser les choses autrement?
Oui, tout à fait, on est d'accord. Comment les penser? C'est l'invitation justement à les penser, comment penser ça autrement pour ne pas tomber dans cette querelle éternelle entre les analystes, on va dire, par rapport au discours. Comment servir les discours? Et c'est là où il insiste qu'on est justement... on est au service du discours et pas au service de quelqu'un, de son analyste.
Mais chacun est au service du discours. Chacun se veut, se dit, se croit.
Colette, oui, mais il fallait fonder ces discours analytiques qui n'étaient pas fondés avant Lacan.
On n'est plus dans le texte, mais sur cette question du groupe, il me semble quand même que Lacan... Il a quand même dit une chose qui indique que cette question n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher une solution à un problème qui n'en a pas. Et il indique qu'il n'a pas de solution quand il dit qu'il y a un réel du groupe et qu'on ne peut pas y échapper au réel du groupe. Il ne faut pas croire que c'est juste l'obscénité imaginaire, le groupe.
Oui, mais ça va quand même dans le sens de la bouffonnerie qu'on évoquait tout à l'heure.
Ça va dans le sens que tout ce sinoche de la loufoquerie, on peut trouver tous les mots qu'on voudra pour désigner ce qui se passe dans les groupes analytiques, ça ne disparaîtra pas. Ça n'a fait que se multiplier, d'ailleurs, depuis la création des premières institutions analytiques. Il ne faut pas croire que dans l'IPA, c'est mieux. Alors, chez les Lacaniens, maintenant, c'est en expansion complète.
En revanche, en nous prenant, en nous situant comme les héritiers des hystériques, au lieu de se lamenter de ça, on peut trouver que c'est une bonne chose, d'un certain point de vue.
Oui, ou on peut trouver que, mon Dieu, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Ce n'est pas une raison pour s'y identifier et en remettre. Ce serait peut-être la politique hystérique. Hein. Il ne faut pas en remettre là-dessus, mais effectivement, travailler au discours. C'est tout le problème de la distinction de ce que Lacan appelle école, où école, chacun essaye de soutenir le discours analytique, hein, chacun, parce qu'il faut bien noter que chez les analystes, vous n'en trouvez aucun qui vous dise « Ah, moi, je n'arrive pas à le soutenir, le discours analytique ». Tous pensent qu'ils soutiennent le discours analytique. Quand on parle « je », « moi, je » soutiens le discours analytique, mais j'en connais qui peut-être ne le soutiennent pas. C'est toujours
je ne suis pas de la Samgha.
C'est toujours dans ce registre-là que l'on en parle. Hein, bon, donc, chacun essaye, en fait, de le soutenir. Ça, je crois que c'est vrai dans l'ensemble, hein, dans la, sauf exception. Et puis après, au niveau collectif, bon, on a les dispositifs d'école pour essayer un niveau qui est moins individuel que chacun dans sa confrontation à l'expérience analytique. On a quand même les dispositifs d'école qui sont faits pour établir une sorte de dialogue.
De communion, le terme de Balthazar.
Communion est beaucoup dire, puisqu'il y a des connotations
homophobiques
qui sont très multiples. Mais en tout cas, je dis à Armando, vous dites c'est pas encore résolu. Mais le encore, il faut l'enlever, parce que ça ne le sera pas.
Ça ne sera pas résolu, d'accord.
On est sûr de ça. C'est une petite certitude. Et c'est précieux d'avoir cette certitude, sinon on s'évertue contre des moulins à vent. On ne devient pas Balthazar Gracian, mais Sancho Panza. Non, l'autre.
Don Quichotte.
Bon, il y a d'autres questions. On en a parlé un peu, mais risque et prudence, c'est pour les psychanalystes, bien sûr. Dans le setting analytique, dans le cadre d'une analyse.
Dans le setting analytique, oui.
Oui, mais aussi en dehors, parce qu'on n'a pas touché à ça, mais la position des psychanalystes dans la cité en tant que citoyen.
Ah oui, on peut parler de ça si on veut, mais ce n'est pas de ça que parle le texte. Hein. Non, on parle de la pratique analytique.
Nous, on peut en parler.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour les deux intervenants, ou Muriel ou Armando, si vous voulez répondre un peu?
Enfin, je voudrais dire que le risque institutionnel est un risque pour les analystes aussi. Enfin, l'institution dans laquelle il se trouve, peut être dommageable ou pas. Donc, ça fait partie quand même des risques pour un analyste, le risque institutionnel. Quant à l'histoire du discours analytique devenant pesteux, même si, encore une fois, on n'en trouve pas des traces partout, c'est aussi un risque. Voilà.
Il y a deux questions.
Non, vas-y. Il y a Maria Velisaropoulos.
Et je pense que
c'est... Et oui, moi c'est Karim Barkati. Je me suis connecté avec le mauvais compte et je n'ai pas voulu me déconnecter pour poursuivre l'intégralité de ce qui a été dit. Merci beaucoup pour vous exposer. Il y a juste... un petit point qui m'a interrogé à la fin de l'exposé d'Armando sur cette idée d'un nœud entre pudeur et prudence. Et tu le livres comme ça à la fin d'une manière très convaincue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont tu conçois ce nœud?
Bon, c'est une lecture que j'ai faite, effectivement. Bon, après, nœud, c'est un peu exagéré. C'est sûr qu'il faudrait développer vraiment si ça existe, mais c'est un peu à la lecture, l'insistance que Lacan fait à la fin, justement, de la seule vertu de la psychanalyse, la pudeur, qui cette affaire des prudences que moi j'avais pas lu, que c'est grâce à cette soirée que je me suis attardé. Et après, il y a des liens dans l'histoire de la philosophie, de la question de la prudence et des liens avec la pudeur, justement. Et voilà, je pensais qu'autour de la question de ce que Muriel avait parlé, justement, l'objet petita, la question du phallus, la question de la non-rapport sexuel. Je pense qu'il y a quelque chose qui est au centre et qui est propre du discours analytique. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à travailler, mais je ne pourrais pas dire plus, quoi. Je pense que c'est quelque chose que l'exposé, l'écriture m'a amené à ça, mais je pense que c'est un peu exagéré de parler d'un nœud comme ça, parce qu'il faudrait les définir et travailler, quoi. Mais je pense qu'il y a quelque chose, quand il insiste sur les non-rapports sexuels et la question de la prudence, qui s'est accrecé justement, mais je ne pourrais pas dire plus ce soir.
Comment on harmoniserait cette histoire de la prudence avec ce qu'il dit Lacan quand il parle de ses supervisions avec les analystes, surtout quand ils débutent, et qu'il dit ils sont comme le rhinocéros dans le magasin de porcelaine, c'est-à-dire qui sont aux antipodes de la prudence.
Il dit aussi qu'il faut les laisser faire.
Oui, il dit qu'il faut les laisser faire. Il ne faut surtout pas les arrêter. Et donc, comment on ajusterait ces deux perspectives quand même un peu différentes, hein, mm-hmm. avec l'idée que ce serait nuisible de les arrêter. Il faudrait déjà réfléchir pourquoi. Et puis qu'il y a une prudence qui n'est pas… C'est curieux qu'il n'évoque pas la mauvaise prudence. Hein. Il évoque ou la bonne ou la vraie. Elles sont toutes les deux positives, la bonne et la vraie. Il n'évoque pas la mauvaise prudence, alors qu'il y a une mauvaise prudence aussi. Mmh. Hein, enfin, dans la vie en général, mais dans la pratique analytique aussi. Il y a une mauvaise prudence. L'analyste peut se planquer, en quelque sorte. Il ne l'évoque pas, ça.
Oui, parce que c'est pour ça que je pense que la mauvaise prudence, c'était l'imprudent. Lui-même, il va mal finir, en quelque sorte. C'était la canaille, les bêtes. En quelque sorte, il faut les laisser.
Je vous dis, une canaille qui devient bête est très heureuse, hein, en général. Elle n'est pas malheureuse, elle finit pas mal, c'est pas une catastrophe pour elle. Ça,
catastrophe,
je comprends pas qu'on prenne ça pour un risque.
Mais pour les groupes,
plus convaincue parce que vous disiez, Muriel, ça c'est un exemple d'un risque vrai pour l'analyste, c'est-à-dire que, je ne sais plus comment elle s'appelait, l'exemple que vous avez dit.
Perle.
De la personne qui, donc, s'est un peu égarée dans le... C'est pas orienté par rapport au cas et se retrouve elle-même en crise subjective parce que voilà, ça c'est un risque. Je dis d'accord, ça là il y a un risque.
Pour l'histoire du rhinocéros, d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi Lacan disait rhinocéros et pas éléphant.
Oh, c'est moi peut-être qui ai dit rhinocéros.
C'est rhinocéros parce que c'est pris de l'UNESCO.
Il y a Gorok qui a
Et je crois que Lacan dit qu'effectivement, ces analystes naissants, disons, ont raison. Ils sont peut-être comme le rhinocéros dans le magasin de porcelaine, mais ils ont raison. Après, ça va leur passer d'avoir raison. Enfin, je crois que c'est… Voilà.
Jean-Jacques.
Oui, je voulais juste dire un mot sur l'histoire de la pudeur. Parce que, tout de même, ça, c'est, on voit bien, à la fois, cette opposition, bon, qui fait partie des, comment dire, des recommandations de Lacan, à savoir qu'un mot est un mot, qu'il faut utiliser les mots. Donc, il faut utiliser les mots et justement, justement, par exemple, les mots du sexe. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser pour obtenir les choses dans l'analyse. Bon. Mmh. Et en même temps, il faut effectivement il y a cette pudeur. C'est-à-dire, l'affaire est que les deux ne sont pas contradictoires. Le fait de dire un mot est un mot. Hein. C'est-à-dire, Lacan n'aimait pas qu'on tourne autour du pot, comme on dit, hein, qu'on dise les choses. Eh bien, il se trouve que ces deux choses-là ne sont pas exactement contradictoires. On sent bien qu'il y a une différence et que lorsqu'il parle de pudeur, c'est quelque chose qui est, disons, qui concerne. C'est là où effectivement le rappel de Gracian est important, c'est-à-dire de la position qu'on occupe par rapport aux autres. Cette question de pudeur me paraît effectivement très importante dans l'histoire, et il ne faut pas imaginer, parce que je pense à ça, j'ai des références. Il ne faut pas imaginer qu'à cause de cette pudeur, n'est-ce pas, la solution va être la prudence, et notamment la prudence dans le vocabulaire qu'on utilise.
C'est la mauvaise prudence.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que la bonne prudence, parce que finalement, quand on essaye de dire, bon d'accord, mais quelle est la vraie prudence, c'est celle qui va... qui cherche le réel. Et justement, c'est là où...
Jean-Jacques, la bonne prudence, c'est la nôtre.
Ça, bon. C'est optimiste.
C'est quand même très facile dans les deux exposés.
Ça, c'est un avis.
Que tout ce qui est positif peut être d'autre côté.
Il y a une autre main qui est levée, Maria, et c'est la dernière question.
Oui, par rapport à l'inquiétude qu'il nous arrive quelque chose. Quand on est quand on essaye de fonctionner comme analyste, mais qu'on ne l'est pas vraiment, moi, je me souviens, Lacan me disait, mais allez-y, et moi, je lui disais, mais non, 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 je ne suis pas prête. Et pourquoi? J'avais tellement peur que si... Sans être prête, je risquais qu'il m'arrive quelque chose de mauvais parce que je n'étais pas prête déjà à ce travail.
Ah bien. Maria, Lacan voulait te faire peur.
Tu as raison, Marc.
Oui. Mais Muriel et Armando, dernière.
Juste une deuxième question très importante.
Vas-y.
Très importante concernant le « il ne peut pas me sentir ».
Ouais.
Et excusez-moi, mais ça me fait penser dans « il ne peut pas me sentir » et ça veut dire « il ne peut pas me supporter » d'une certaine façon. Et en même temps, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui dans le fameux Covid? On perd l'odorat. Alors, je fais une métaphore avec cette histoire. On perd l'odorat, mais est-ce que cet odorat est justement dans le lien social?
Muriel, Armando?
Alors oui, un mot par exemple sur le risque... d'assèchement épistémique. C'est quand même plus rigolo le gai-savoir. Bon. D'où l'idée que moins on est de sain, moins on rit. Il y a aussi ce risque qu'on rit moins. C'est quand même ennuyeux. Voilà.
Bon, justement, peut-être Gracian insistait sur le courage. Que parmi toutes les vertus, c'est le courage. Je pense que c'est le courage de dire, de pouvoir les bien dire et les dire vrai. Bon, Foucault, c'était du côté des dire vrai. Je pense que Lacan, c'est les bien dire, quoi. Et les bien dire, c'est vrai que c'est un pudique, en quelque sorte, parce que donc, côté l'interprétation, il ne faut pas être prudent, justement. Si on est du côté de la prudence vraie, c'est une prudence qui fait plutôt effraction, mais qui, comme on dit Lacan, ça viole, comment est-ce qu'il dit? Il dit que ça produit une effraction sans violer la pudeur, justement, l'intimité du sujet. Donc, ça fait violence quand même. Et donc, je pense que c'est ça aussi, c'est le courage de dire les choses, comme on disait Jean-Jacques, par rapport à il faut les dire, même si ça va faire violence, parce que c'est une violence qui est prudente dans le sens que ça va peut-être orienter vers les réels. Donc,
excuse-moi, Radou, si tu permets.
Allez, un dernier tour de table. Allez.
Si tu permets, Radou, juste une petite question à Armando sur le point que tu évoquais. Ça me rappelle un passage de Lacan, je ne sais plus dans quel séminaire, pardon, disant qu'il ne faut pas pousser les choses jusqu'à l'aveu. Est-ce que tu fais un parallèle avec ça et la prudence?
Oui, oui, tout à fait. Mais Lacan, il a dit, je n'ai pas la référence, mais...
Peut-être quelqu'un parmi les, dans les petites cases là.
Oui, oui, tu as raison, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose de cette limite où on n'est pas dans justement une confession, quoi. On n'est pas du côté de la confession où il faut aller jusqu'à l'aveu. Que l'aveu, ça dépasse ces limites de la prudence et je pense que c'est du côté du bien et du mal, quoi. Je pense que là, on n'est pas dans les discours analytiques, justement. Je pense que là, il nous montre quelque chose à tenir, quand même.
Excusez-moi. Là, il y a un truc, là, quand même. Non. L'aveu,
alors,
c'est pas, l'aveu est refusé, mais pas pour cette raison. L'aveu est refusé parce que c'est en quelque sorte, quand on parle d'aveu, c'est la mise en avant d'une faute.
Ah, oui, une soumission.
Faute morale. Le bien dire ne parle pas de la faute. Il ne s'agit pas, comme on dit aujourd'hui, de culpabiliser. Donc, c'est pour ça que ne pas aller jusqu'à l'aveu au sens où le sujet, n'est-ce pas, prendrait ça comme une faute. Or,
c'est pas du tout contraire à ce que disait Armando, ce que tu dis.
Non, c'est pas contraire, c'est un point que je voulais rajouter. Effectivement, c'est pas contraire.
Oui, et puis, cette histoire donc de se faire complice de la pudeur dont parle Lacan à propos du désir de l'analyste, jusqu'à ce qu'elle baisse sa garde. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas d'arracher le voile, bien sûr. Il s'agit que le voile baisse sa garde d'une certaine manière. C'est quand même différent.
Absolument. Oui, oui.
Bon. Bien. Dernier appel aux questions et aux réponses.
Ça va.
Ben alors, je crois qu'on peut remercier vraiment vivement nos deux intervenants et aux participants, vous rappelant que le prochain séminaire école aura lieu le jeudi 17 décembre avec Natacha Velut et Frédéric Pellion, mais qu'il y a entre-temps le séminaire Champ lacanien du 10 décembre avec Patrick Barriot, Bernard Bruni et Patricia Gavilanes et discutant Nadine Cordova. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Merci Radou. Au revoir.
Merci Radou. Merci. Au revoir.
Au revoir Radou.
Merci à tout le monde.
Merci. Merci Muriel. À bientôt.
Merci. À bientôt.